Chapitre 26 Gringotts. Leur plan était prêt. Les préparatifs achevés. Dans la plus petite des trois chambres, un long cheveu noir et épais, arraché du pull qu'Hermione avait porté au manoir des Malfoy, était enroulé dans une petite fiole de verre posée sur la cheminée. « Et en plus, tu te serviras de sa véritable baguette, » dit Harry, en montrant d'un signe de tête la baguette de noyer. « Tu seras donc d'autant plus convaincante. » Hermione prit la baguette en ayant l'air de craindre qu'elle la pique ou la morde.
« J'ai horreur de cette chose, » dit-elle à voix basse. « Je la déteste vraiment. Elle ne me va pas du tout. Elle ne marche pas bien avec moi. C'est comme un morceau d'elle. »
Harry ne put s'empêcher de repenser à la façon dont Hermione avait minimisé sa propre répugnance à l'égard de la baguette de prunelier, affirmant qu'il s'imaginait des choses lorsqu'elle ne fonctionnait pas aussi bien que la sienne, lui recommandant simplement de s'entraîner. Il préféra cependant ne pas lui retourner ses conseils. À la veille de leur tentative d'effraction de Gringotts, ce n'était pas le moment de la contrarier.
« Elle t'aidera sans doute à mieux entrer dans la peau du personnage, » dit Ron. « Pense à ce que cette baguette a fait. »«
Mais justement !» s'exclama Hermione. « C'est la baguette qui a torturé les parents de Neville, et Dieu sait combien d'autres personnes. C'est celle qui a tué Sirius !»
Harry n'y avait pas pensé. Il regarda la baguette et éprouva soudain une envie violente de la casser, de la couper en deux avec l'épée de Gryffondor posée contre le mur à côté de lui.
« Ma baguette me manque, » dit Hermione d'un ton malheureux. « J'aurais bien aimé que M. Ollivander puisse m'en faire une autre à moi aussi. »
M. Ollivander avait envoyé ce matin-là une nouvelle baguette à Luna. En ce moment même, elle était sortie sur la pelouse, à l'arrière de la maison, pour en tester les capacités sous le soleil de cette fin d'après-midi. Dean, qui s'était fait voler la sienne par les rafleurs, la regardait d'un air plutôt mélancolique. Harry jeta un coup d'œil à la baguette d'aubépine qui avait appartenu à Drago Malfoy. Il avait été surpris, mais content de s'apercevoir qu'elle lui obéissait aussi bien que celle d'Hermione. Se rappelant ce que Ollivander leur avait dit sur le fonctionnement secret des baguettes, Harry crut deviner le problème d'Hermione. Elle n'avait pas pris elle-même la baguette de noyer à Bellatrix et n'avait donc pas obtenu sa soumission. La porte de la chambre s'ouvrit et Gripsek entra. Harry saisit instinctivement la poignée de l'épée pour la rapprocher de lui, mais il regretta aussitôt son geste. Il vit que le gobelin l'avait remarqué. Pour essayer de faire oublier ce moment un peu gênant, il dit
« Nous avons mis au point les détails de dernière minute, Gripsek. Nous avons prévenu Bill et Fleur que nous partions demain, et nous leur avons demandé de ne pas se lever pour nous dire au revoir. »
Ils avaient été fermes sur ce point car Hermione devait se transformer en Bellatrix avant leur départ, et moins Bill et Fleur savaient ou soupçonnaient de choses sur leur projet, mieux cela valait. Il leur avait également précisé qu'ils ne reviendraient pas. Comme ils avaient perdu la tante de Perkins la nuit de leur capture par les rafleurs, Bill leur en avait prêté une autre. Elle était à présent rangée dans le sac en perles qu'Hermione avait réussi à soustraire aux rafleurs. Harry en fut très impressionné lorsqu'elle le lui raconta, en le cachant tout simplement dans sa chaussette. Harry regretterait Bill, Fleur, Luna et Dean. Sans parler du confort domestique dont ils avaient bénéficié au cours de ces dernières semaines. Pourtant, il avait hâte d'échapper à l'atmosphère confinée de la chaumière aux coquillages. Il était fatigué d'avoir à s'assurer sans cesse qu'il n'était pas entendu. Fatigué d'être enfermé dans la chambre sombre, minuscule. Et surtout, il avait envie d'être débarrassé de Gripsek. Mais savoir précisément comment et quand il pourrait se séparer du gobelin sans lui donner l'épée de Gryffondor demeurait une question à laquelle Harry était bien incapable de répondre. Il n'avait pas pu décider comment s'y prendre, car le gobelin avait rarement laissé Harry, Ron et Hermione seuls ensemble plus de 5 minutes d'affilée.
« Et il pourrait donner des leçons à ma mère ?» grognait Ron en voyant les longs doigts du gobelin apparaître sans cesse derrière les portes.
Ayant en tête les avertissements de Bill, Harry soupçonnait Gripsek d'être à l'affût d'une possible trahison. Hermione désapprouvaient avec tant de vigueur la ruse qu'ils avaient projetée que Harry avait dû renoncer à lui demander des idées pour la mettre en œuvre. Ron, quant à lui, lors des rares moments où Gripsek les laissait libres, se contentait de répondre « On n'aura qu'à improviser, mon vieux !» Harry dormit mal cette nuit-là. Étendu, les yeux ouverts, en attendant l'aube, il repensa à la nuit qui avait précédé leur expédition au ministère de la magie et se souvint qu'il se sentait alors résolu, presque enthousiaste. À présent, il avait des accès d'angoisse, des doutes le harcelaient. Il ne pouvait se débarrasser de la peur que tout se passe mal. Il ne cessait de se répéter que leur plan était bon, que Gripsek savait ce qu'ils devraient affronter, qu'ils étaient bien préparés à toutes les difficultés qui les attendaient. Pourtant, il se sentait mal à l'aise. Une ou deux fois, il entendit Ron remuer. Harry était sûr que lui aussi était réveillé, mais il partageait le living room avec Dean. Il préféra donc ne pas essayer de lui parler. À 6 heures du matin, ce fut un soulagement de pouvoir se glisser hors des sacs de couchage, s'habiller dans une semi-obscurité, puis sortir silencieusement dans le jardin où Hermione et Gripsek devaient les retrouver. L'aube était fraîche, mais il n'y avait plus beaucoup de vent. Maintenant que le mois de mai était arrivé, Harry leva les yeux vers les étoiles qui continuaient de scintiller faiblement dans le ciel sombre et écouta le flux et le reflux de la mer contre la falaise. Ce bruit lui manquerait. De petites pousses vertes avaient percé la terre rouge qui marquait la tombe de Dobby. Dans un an, le tertre serait couvert de fleurs. La pierre blanche sur laquelle était gravé le nom de l'elfe avait déjà l'air patiné. Harry songea qu'il aurait été difficile de trouver plus bel endroit pour que Dobby repose en paix, mais il éprouvait une tristesse douloureuse à l'idée de le laisser derrière lui. En regardant la tombe, il se demanda une fois de plus comment l'elfe avait pu savoir où il devait aller pour leur porter secours. Ses doigts remontèrent machinalement jusqu'à la petite bourse accrochée à son cou, et il sentit au travers le morceau de miroir brisé dans lequel il était sûr d'avoir vu l'œil de Dumbledore. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait le fit alors se retourner. Bellatrix se dirigea vers eux en traversant la pelouse à grands pas, accompagnée de Gripsek. Tout en marchant, elle rangea le petit sac en perles dans la poche intérieure de l'une des vieilles robes qu'ils avaient emportées du square Grimmauld. Bien que Harry sût parfaitement que c'était en réalité Hermione, il ne put réprimer un frisson de dégoût. Elle était plus grande que lui, ses longs cheveux noirs tombant en cascade dans son dos, ses yeux aux lourdes paupières le regardant avec une expression dédaigneuse. Mais lorsqu'elle parla, c'était Hermione qui s'exprimait par la voix de Bellatrix.
« Elle avait un goût répugnant, pire que la rafle gourde. Ron, viens là que je m'occupe de toi. »«
D'accord, mais souviens-toi, je ne veux pas une barbe trop longue. »«
Pour l'amour du ciel, on te demande pas d'avoir l'air séduisant. »
« Fais pas ça, simplement on se prend toujours dedans. Mais j'aimerais bien un nez un peu plus court. Essaye de faire comme la dernière fois. »
Hermione soupira et se mit au travail, marmonnant des formules, tandis qu'elle transformait divers aspects de l'apparence de Ron. Il devait prendre une identité inventée de toutes pièces et il comptait sur l'aura malfaisante de Bellatrix pour le protéger. Harry et Gripsek, eux, se cacheraient sous la cape d'invisibilité.
« Et voilà !» dit Hermione. « Qu'est-ce que tu en penses, Harry ?»
Il lui était possible de deviner Ron sous son déguisement, mais seulement, pensa-t-il, parce qu'il le connaissait si bien. Ses cheveux étaient à présent longs et ondulés, il avait une épaisse barbe brune assortie d'une moustache, ses taches de rousseur avaient disparu, son nez était court et large, ses sourcils broussailleux.
« Oh, c'est pas vraiment mon genre, mais ça ira, » répondit Harry. « Bon, on y va ?»
Tous trois jetèrent un regard à la chaumière aux coquillages sombres et silencieuses sous les étoiles pâlissantes, puis se dirigèrent vers le mur qui marquait la limite du jardin et au-delà duquel ils pourraient transplaner, le sortilège de Fidelitas cessant d'être actif. Lorsqu'ils eurent franchi le portail, Gripsek parla.
« Je pense que je devrais monter maintenant à Harry Potter. »
Harry se baissa. Et il grimpa sur son dos, ses mains jointes sur sa gorge. Il n'était pas lourd, mais Harry n'aimait pas le contact du gobelin, ni la force surprenante avec laquelle il s'accrochait à lui. Hermione sortit la cape d'invisibilité du sac en perles et la déploya sur eux.
« Parfait !»
dit-elle, en se penchant jusqu'au sol pour vérifier que les pieds de Harry ne dépassaient pas.
« On ne voit rien du tout. Allons-y. »
Harry pivota sur place, grippe sec sur ses épaules, et se concentra de toutes ses forces sur le chaudron baveur, l'auberge qui marquait l'entrée du chemin de traverse. Le gobelin s'agrippa à lui, encore plus étroitement, lorsqu'ils s'enfoncèrent dans l'obscurité oppressante. Quelques secondes plus tard, les pieds de Harry atterrirent sur un trottoir, et il ouvrit les yeux sur Charing Cross Road. Des moldus passaient d'un air affairé, avec les airs de chiens battus des petits matins, sans se douter de l'existence de la minuscule auberge. Le bar du chaudron baveur était presque désert. Tom, le patron édenté aux épaules voûtées, essuyait des verres derrière le comptoir. Deux sorciers qui parlaient à voix basse dans le coin opposé jetèrent un coup d'œil à Hermione et reculèrent dans l'ombre.
« Madame Lestrange !»
murmura Tom. Au passage d'Hermione, il inclina la tête avec servilité.
« Bonjour !»
dit Hermione. Quand Harry se glissa silencieusement devant le bar, portant toujours Gripsek sous la cape, il vit une expression de surprise sur le visage de Tom.
« Trop poli !» murmura Harry à l'oreille d'Hermione lorsqu'ils sortirent dans la petite cour de l'auberge.
« Il faut traiter les gens comme des détritus. »«
D'accord, d'accord !»
Hermione prit la baguette de Bellatrix et tapota une brique dans le mur d'apparence banale devant lequel il s'était arrêté. Aussitôt, les autres briques se mirent à tournoyer et à pivoter, laissant apparaître une ouverture qui s'agrandit pour former une arcade donnant sur l'étroite rue pavée qu'on appelait le chemin de traverse. L'endroit était calme. L'heure n'était pas tout à fait venue d'ouvrir les magasins et on ne voyait guère de passants. La rue tortueuse, au sol recouvert de petits pavés, avait beaucoup changé. Ce n'était plus l'artère animée qu'avait connue Harry avant de commencer sa première année à Poudlard, de nombreuses années auparavant. De plus en plus de magasins étaient condamnés par des planches, bien que de nouveaux établissements consacrés à la magie noire aient été installés depuis sa dernière visite. Son propre visage le regardait d'un œil noir sur des affiches placardées à la devanture de nombreuses boutiques toujours accompagnées de la légende « Indésirable numéro 1 ». Des gens en haillons étaient assis serrés les uns contre les autres devant des portes de maison. Ils les entendaient demander d'un ton gémissant un peu d'or aux rares passants, insistant sur le fait qu'ils étaient de véritables sorciers. Un homme portait sur l'œil un bandage ensanglanté. Lorsqu'ils avancèrent le long de la rue, les mendiants aperçurent Hermione et semblèrent disparaître devant elle, tirant leurs capuchons sur leur visage, fuyant aussi vite qu'ils le pouvaient. Hermione les regarda avec curiosité jusqu'à ce que l'homme au bandage ensanglanté vienne d'un pas chancelant lui barrer le chemin.
« Mes enfants !» mugit-il en pointant le doigt sur elle. Il y avait un accent de détresse dans sa voix éraillée, haut perché. « Où sont mes enfants? Qu'a-t-il fait d'eux? Vous le savez! Vous le savez !»
Je... balbutia Hermione. L'homme se jeta sur elle, essayant de la prendre à la gorge. Un éclair rouge jaillit aussitôt, accompagné d'un bang, et il fut projeté à terre, inconscient. Ron resta figé, sa baguette toujours tendue devant lui, une expression d'horreur perceptible derrière sa barbe. Des visages apparurent aux fenêtres, de chaque côté de la rue, tandis qu'un petit groupe de passants, d'allure prospère, resserrait les pans de leurs robes et s'éloignait en trottinant, pressés de quitter les lieux. Leur entrée sur le chemin de traverse pouvait difficilement être plus voyante. Pendant un instant, Harry se demanda s'il ne vaudrait pas mieux repartir tout de suite pour essayer de réfléchir à un nouveau plan. Mais avant qu'ils aient pu bouger ou se consulter, ils entendirent un cri derrière eux.
« Tiens, Madame Lestrange !»
Harry fit volte-face et Gripsek resserra son étreinte autour de son cou. Un grand sorcier mince, avec une couronne de cheveux gris en broussailles et un long nez pointu, s'avançait vers eux à grands pas.
« C'est travers !»
siffla le gobelin à l'oreille de Harry. Mais celui-ci, en cet instant tout au moins, aurait été incapable de dire qui était travers. Hermione se redressa de toute sa hauteur, puis lança avec autant de mépris qu'elle le pouvait
« Et que me voulez-vous ?»
Travers s'immobilisa manifestement offensé.
« C'est un manche-mort !»
souffla Gripsec. Harry fit un pas de côté pour répéter l'information à l'oreille d'Hermione.
« Je voulais simplement vous saluer !» dit froidement Travers. « Mais si ma présence n'est pas la bienvenue !»
Harry reconnaissait sa voix à présent. Travers était l'un des mange-morts qui avait été appelé chez Xenophilius.
« Si, si, Travers !»
répondit précipitamment Hermione, essayant de rattraper son erreur.
« Comment allez-vous ? » ?»« Eh bien, je dois avouer que je suis surpris de vous voir dehors, Bellatrix. »« Vraiment ? Et pourquoi ?»
demanda Hermione.
« Eh bien, parce que...
Travers tout sauta.
« Eh bien, j'ai entendu dire que les résidents du manoir des Malfoy n'avaient plus le droit de sortir depuis la... l'évasion. »
Harry forma des vœux pour qu'Hermione garde son sang-froid. Si c'était vrai, et que Bellatrix ne soit pas censée apparaître en public...
« Le Seigneur des Ténèbres pardonne à ceux qui l'ont fidèlement servi dans le passé !»
répliqua Hermione dans une magnifique imitation du ton le plus hautain de Bellatrix.
« Vous n'avez peut-être pas auprès de lui autant de crédit que moi, Travers !»
Bien que le mange-mort eût l'air insulté, il sembla également moins soupçonneux. Il jeta un regard à l'homme que Ron venait de stupéfixer.
« Que vous avait-il fait ?»«
Peu importe, il ne recommencera pas !»
assura Hermione d'une voix glaciale.
« Certains de ces sans-baguettes sont parfois très pénibles, hein, » commenta Travers. « Tant qu'ils se contentent de mendier, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais figurez-vous que, la semaine dernière... Il y en a une qui m'a demandé de plaider sa cause auprès du ministère. « Je suis une sorcière! Je suis une sorcière !»
dit-il en imitant une petite voix couinante.
« Laissez-moi une chance de vous le prouver !»
Ah, comme si j'allais lui prêter ma baguette. « Mais au fait, » ajouta Travers avec curiosité,
« de quelle baguette vous servez-vous en ce moment, Bellatrix ? J'ai entendu raconter que la vôtre... »«
Je l'ai toujours avec moi !»
coupa Hermione de son ton glacé en levant la baguette de Bellatrix.
« Je ne sais pas quelles sont ces rumeurs dont vous parlez, Travers, mais vous semblez bien mal informé !»
Travers parut quelque peu interloqué et préféra se tourner vers Ron.
« Et qui est votre ami ?»«
Je ne le connais pas. »«
Il s'appelle Dragomir Despard !»
dit Hermione. Ils avaient décidé que la meilleure couverture pour Ron consisterait à apparaître comme un étranger au nom imaginaire.
Il parle très mal l'anglais, mais c'est un sympathisant du Seigneur des Ténèbres. Il est venu de Transylvanie pour voir notre nouveau régime.
Ah, vraiment? Heureux de faire votre connaissance, Dragomir. Très enchanté,
répondit Ron en tendant la main. Travers lui présenta deux doigts et serra négligemment la main de Ron comme s'il avait peur de se salir.
« Alors, qu'est-ce qui vous amène si tôt sur le chemin de traverse, vous et votre ami sympathisant ?»
demanda Travers.
« Je dois aller chez Gringotts !»
répondit Hermione.
« Moi aussi, hélas !» dit Travers. « L'or, ah oui, cet or exécrable, oh, on ne peut pas vivre sans lui, mais j'avoue que je déplore la nécessité d'avoir à fréquenter nos amis au long doigt.
» Harry sentit les mains de Gripsec lui serrer brièvement le cou.
« Voulez-vous que nous y allions ensemble ?»
proposa Travers en faisant un geste pour inviter Hermione à l'accompagner. Hermione n'eut d'autre choix que de marcher à côté de lui le long de la rue tortueuse et pavée en direction de la banque Gringotts qui dressait sa façade d'une blancheur de neige au-dessus des petites boutiques alentour. Ron les suivit d'un pas nonchalant, Harry et Gripsec derrière eux. Il se serait volontiers passé de la compagnie d'un mange-mort trop curieux. Mais le pire était qu'en présence de Travers, aux côtés de celle qu'il croyait être Bellatrix, Harry ne pouvait plus communiquer avec Hermione ni avec Ron. Un peu trop tôt, à son goût, ils arrivèrent au pied de l'escalier en marbre qui menait au grand portail de bronze. Ainsi que Gripsec les en avait avertis, les gobelins en livrée habituellement postés de chaque côté de l'entrée avaient été remplacés par deux sorciers qui tenaient à la main une canne d'or longue et fine.
Ah, leçon de sincérité, soupira Travers d'un ton théâtral, très rudimentaire, mais efficace.
Il monta les marches, saluant d'un petit signe de tête, à gauche et à droite, les deux sorciers qui brandirent leurs cannes d'or et les lui passèrent sur le corps, de la tête aux pieds. Harry savait que les sondes détectaient les sortilèges du camouflage et les objets magiques dissimulés. Conscient de n'avoir que quelques secondes pour agir, Harry pointa la baguette de Drago tour à tour sur chacun des gardes et murmura à deux reprises « Confundo !» Travers, qui regardait au-delà des portes de bronze le hall de la banque, ne remarqua pas le tressaillement des deux gardes au moment où les sortilèges les frappèrent. Les longs cheveux noirs d'Hermione ondulèrent derrière elle lorsqu'elle monta les marches.
« Un instant, madame !»
dit l'un des gardes en levant sa sonde.
« Mais vous venez de le faire !»
protesta Hermione, du ton arrogant, impérieux de Bellatrix. Travers se retourna en haussant les sourcils. Le garde ne savait plus très bien où il en était. Il regarda la fine sonde d'or, puis leva les yeux vers son collègue, qui lui dit d'une voix légèrement éteinte
« Bah oui, tu viens de les fouiller, Marius !»
Et Hermione s'avança d'un pas vif, Ron à côté d'elle. Harry et Gripsek, invisibles, trottant derrière eux. Lorsqu'ils franchirent le seuil, Harry jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Les deux sorciers se grattaient la tête. Deux gobelins se tenaient devant les portes inférieures, en argent celles-ci, sur lesquelles était gravé le poème promettant un terrible châtiment aux éventuels voleurs. Harry leva la tête et, tout à coup, un souvenir lui revint en mémoire avec une extraordinaire acuité. Le jour de ses 11 ans, le plus merveilleux anniversaire de sa vie, il s'était trouvé à cet endroit même en compagnie de Hagrid, dont il entendait encore les paroles.
« Comme je te l'ai dit, il faudrait être fou pour essayer de voler quelque chose ici. »
Gringotts lui était alors apparu comme un lieu de merveille, la demeure enchantée d'un trésor qu'il possédait sans l'avoir jamais su, et pas un seul instant l'idée ne lui serait venue qu'il puisse y revenir un jour comme un voleur. Quelques secondes plus tard, ils avaient pénétré dans le vaste hall de marbre de la banque. Derrière le long comptoir, des gobelins, assis sur de hauts tabourets, servaient les premiers clients de la journée. Hermione, Ron et Travers se dirigèrent vers un vieux gobelin qui examinait une grosse pièce d'or à l'aide d'une loupe. Hermione laissa passer Travers devant elle en prétextant qu'elle voulait expliquer à Ron certains détails architecturaux du grand hall. Le gobelin jeta de côté la pièce qu'il tenait entre ses doigts et murmura sans s'adresser à personne en particulier « Far, fadet !» Puis il salua Travers qui lui donna une minuscule clé d'or. Le gobelin en vérifia l'authenticité et la lui rendit. Hermione s'avança à son tour.
« Madame Hoth Lestrange ?»
s'exclama le gobelin, visiblement surpris.
« Ça alors, que puis-je faire pour vous ?»«
Je voudrais descendre dans ma chambre forte !»
répondit Hermione. Le vieux gobelin eut comme un mouvement de recul. Harry jeta un coup d'œil derrière lui. Non seulement Travers restait là en retrait, à la regarder, mais d'autres gobelins avaient levé le nez de leur travail pour observer Hermione.
« Vous avez un document d'identité ?»
demanda le gobelin.
« D'identité ? Oh, on ne m'avait jamais encore demandé le document d'identité !»
répliqua Hermione.
« Ça, ils savent !»
murmura Gripsek à l'oreille de Harry.
« Ils ont dû être avertis qu'il y avait un risque d'imposture.
« Votre baguette fera l'affaire, madame, »
assura le gobelin. Il tendit une main légèrement tremblante, et Harry comprit soudain, avec horreur, que les gobelins de Gringotts étaient au courant du vol de la baguette de Bellatrix.
« Intervenez maintenant, »
chuchota Gripsek,
« le sortilège de l'Imperium. »
Sous la cape, Harry leva la baguette d'aubépine, la dirigea sur le vieux gobelin et murmura pour la première fois de sa vie « Impero ». Il éprouva une étrange sensation le long du bras, une sorte de fourmillement tiède qui semblait jaillir de son cerveau et parcourir les veines, les tendons, le reliant à la baguette et au sortilège qu'il venait de lancer. Le gobelin prit la baguette magique de Bellatrix, l'examina attentivement, puis déclara
« Ah, vous avez fait fabriquer une nouvelle baguette, Madame Lestrange. »
« Quoi ? »
dit Hermione.
« Non, 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 c'est la mienne !»«
Une nouvelle baguette !»
s'étonna Travers, qui s'approcha à nouveau du comptoir. Tout autour, les gobelins continuaient d'observer la scène.
« Mais comment est-ce possible ? À quel fabricant vous êtes-vous adressé ?»
Harry réagit sans réfléchir. Il pointa sa baguette sur Travers et marmonna une fois de plus « Impero ».
« Ah, bah oui, je vois
!» dit alors Travers en regardant la baguette de Bellatrix.
« Ah oui, très, très élégante. Et elle marche bien, hein ? Ah, j'ai toujours pensé que les baguettes nécessitaient un certain temps de rodage. Vous ne croyez pas ?»
Hermione parut abasourdie, mais au grand soulagement de Harry, elle s'adapta sans commentaire à ce bizarre retournement de situation. Derrière le comptoir, le vieux gobelin frappa dans ses mains et un gobelin plus jeune s'approcha.
Je vais avoir besoin des tintamarres,
dit-il au jeune gobelin. Celui-ci fila aussitôt, puis revint un instant plus tard avec un sac de cuir apparemment rempli d'objets en métal, à en juger par les tintements qu'on entendait, et le donna à son supérieur.
Parfait. Si vous voulez bien me suivre, Madame Lestrange, reprit le vieux gobelin, je vais vous conduire à votre chambre forte.
Il sauta du tabouret, disparut derrière le comptoir et réapparut après en avoir fait le tour, s'avançant vers eux d'un pas joyeux. Le contenu de son sac continuait de tinter. Travers, à présent, se tenait immobile, la bouche grande ouverte. Le regard perplexe que Ron posait sur lui attira l'attention sur cet étrange phénomène.
« Bagrad, attends !»
Un autre gobelin sortit précipitamment de derrière le comptoir.
« Nous avons des instructions !»
annonça-t-il en s'inclinant devant Hermione.
« Pardonnez-moi, madame, mais nous avons reçu des ordres particuliers concernant la chambre forte des Lestrange. »
Il murmura quelques mots d'un ton pressant à l'oreille de Bogrod. Mais le gobelin, soumis à l'impérium, l'écarta d'un geste.
« Non, je connais les instructions. Madame Lestrange va descendre dans sa chambre forte. C'est très vieille famille, très très vieille famille. Vieux client, ça sera très vieux. Par ici, s'il vous plaît. »
Accompagné du tintement de son sac, il se hâta vers l'une des portes du hall. Harry jeta un coup d'œil à Travers, qui était toujours figé sur place, l'air anormalement absent, et prit alors une décision. D'un petit coup de baguette, il obligea le mange-mort à venir avec eux. Celui-ci les suivit docilement lorsqu'ils franchirent la porte et pénétrèrent dans un couloir de pierre brute éclairé par des torches enflammées. « Ça va mal. Ils ont des soupçons, » dit Harry, après que la porte eut claqué derrière eux. Il ôta sa cape d'invisibilité et Gripsec sauta de ses épaules. Ni Travers ni Bogrod ne manifestèrent la moindre surprise en voyant brusquement apparaître Harry Potter devant eux. « Ils sont sous Imperium, » ajouta Harry en réponse aux interrogations d'Hermione et de Ron au sujet de Travers et de Bogrod qui restaient là, le visage dépourvu d'expression. « Je crois que je n'y suis pas allé assez fort, je ne sais pas. » Un autre souvenir ressurgit alors dans sa mémoire, celui de la véritable Bellatrix Lestrange, hurlant à ses oreilles la première fois qu'il avait essayé de jeter un sortilège impardonnable.
« Il faut vraiment vouloir la souffrance de l'autre, Potter !»«
Et qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Ron. « On essaie de sortir maintenant pendant qu'on peut encore ?»«
Si on le peut vraiment !» dit Hermione en jetant un coup d'œil vers la porte du hall derrière laquelle ils ignoraient ce qui était en train de se passer.
« Nous sommes arrivés jusqu'ici, on continue, » décida Harry.
« Très bien, »
approuva Gripsec.
« Dans ce cas, nous avons besoin de Bogrod pour conduire le wagonnet. Je n'ai plus l'autorité nécessaire, mais il n'y aura pas assez de place pour emmener le sorcier. »
Harry dirigea sa baguette sur Travers. « Impero !» Le sorcier se tourna et avança d'un pas vif le long du passage.
« Qu'est-ce que tu lui fais faire ?»«
Je l'envoie se cacher. »
répondit Harry, sa baguette pointée à présent sur Bogrod.
Celui-ci siffla pour appeler un wagonnet qui surgit de l'obscurité en roulant vers eux sur ses rails. Lorsqu'ils grimpèrent à bord, Bogrod et Gripsek à l'avant, Harry, Ron et Hermione serrés à l'arrière, Harry aurait juré entendre des cris derrière eux dans le grand hall. Avec une violente secousse, le wagonnet se mit en route et prit de la vitesse. Ils passèrent en trombe devant Travers, qui se tortillait pour essayer de se cacher dans une infractuosité du mur. Puis, le wagonnet se mit à tourner et virer dans le labyrinthe des tunnels, entraîné par la pente des rails. Dans le vacarme des roues métalliques, Harry ne pouvait plus rien entendre. Ses cheveux voltaient derrière lui, tandis qu'il zigzaguait entre les stalactites, toujours plus loin dans les profondeurs de la terre. Il ne cessait cependant de jeter des regards par-dessus son épaule. C'était comme s'ils avaient laissé d'énormes empreintes sur leur passage. Plus il y pensait, plus il lui semblait absurde d'avoir déguisé Hermione en Bellatrix et d'avoir apporté sa baguette alors que les Mangemorts savaient pertinemment qu'on la lui avait volée. Et jamais Harry n'était descendu aussi loin lors de ses précédentes visites chez Gringotts. Au détour d'un virage, en épingle à cheveux qu'ils avaient pris à toute allure, ils virent, à quelques mètres devant eux, une chute d'eau qui s'abattait sur les rails. Harry entendit Gripsek hurler « Non, non !» Mais il n'y avait pas de frein, et ils foncèrent à travers la cascade. Les yeux et la bouche de Harry se remplirent d'eau. Il ne voyait plus rien, n'arrivait plus à respirer. Puis, dans une terrible embardée, ils furent tous éjectés du wagonnet qui s'était renversé. Harry l'entendit se fracasser contre la paroi du tunnel. Au même moment, Hermione cria quelque chose d'une voix perçante et il se sentit tomber sur le sol en vol plané comme s'il ne pesait pas plus lourd qu'une plume, atterrissant en douceur sur le sol rocheux.
« Sors ! Sortilège de coussinage !»
balbutia Hermione que Ron aidait à se relever. Harry s'aperçut alors avec horreur qu'elle n'avait plus l'apparence de Bellatrix. Trempée de la tête aux pieds, elle était redevenue elle-même. Elle flottait dans sa robe désormais trop grande. Ron avait de nouveau les cheveux roux et sa barbe avait disparu. Tous deux s'en rendirent compte lorsqu'ils se regardèrent l'un l'autre en se passant la main sur le visage.
« La cascade des voleurs !»
s'exclama Gripsek. Il se remit péniblement sur pied et jeta un coup d'œil vers le déluge qui tombait sur les rails. Harry savait maintenant qu'il n'était pas seulement constitué d'eau.
« La cascade efface tous les enchantements, tous les camouflages magiques. Ils savent que des imposteurs ont pénétré dans Gringotts. Ils ont déclenché les défenses contre nous. »
Harry vit Hermione vérifier que le sac en perles était toujours là et lui-même plongea précipitamment la main dans la poche de son blouson pour s'assurer qu'il n'avait pas perdu la cape d'invisibilité. Il se tourna alors vers Bogrod, qui hochait la tête d'un air ahuri. La cascade des voleurs semblait avoir levé le sortilège de l'Imperium.
« Nous avons besoin de lui, » dit Gripsek. « Nous ne pouvons pénétrer dans la chambre forte sans un gobelin de Gringotts. Nous avons aussi besoin des Tantamars. »«
Impero !» répéta Harry. Sa voix résonna dans le tunnel de pierre et une sensation enivrante de puissance le parcourut à nouveau depuis son cerveau jusqu'à sa baguette. Cette fois encore, Bogrod se soumit à sa volonté. Son expression perplexe se transformant en une indifférence polie lorsque Ron se précipita pour lui prendre le sac de cuir qui contenait les outils métalliques.
« Harry, je crois que quelqu'un vient !» s'exclama Hermione.
Elle pointa sa baguette sur la cascade et s'écria
« Protego !»
Ils virent le charme du bouclier jaillir dans le tunnel et interrompre le flot de la chute d'eau ensorcelée.
« Bien joué !» dit Harry.
« Montre-nous le chemin, Gripsek. »
« Et comment allons-nous sortir d'ici ?»
demanda Ron, alors qu'il se hâtait de suivre le gobelin dans le passage obscur, Bogrod haletant derrière eux comme un vieux chien.
« On s'en inquiétera en temps utile, » répliqua Harry.
Il tendait l'oreille et il lui sembla entendre à proximité un mouvement accompagné d'un cliquetis.
« Gripsek, c'est encore loin ?»«
Non, c'est pas très loin, Harry Potter, pas très loin. »
Après avoir tourné l'angle d'un mur, ils virent la chose à laquelle Harry s'était préparé et qui les arrêta net. Devant eux, un dragon gigantesque était attaché au sol, interdisant l'accès aux 4 ou 5 chambres fortes les plus profondes de la banque. Au cours de sa longue incarcération sous terre, les écailles de la bête étaient devenues pâles et friable par endroits. Ses yeux étaient d'un rose laiteux. Ses deux pattes de derrière portaient de lourds anneaux munis de chaînes qui les reliaient à d'énormes pitons profondément enfoncés dans la pierre. Ses grandes ailes, hérissées de piquants, repliées contre son corps, auraient rempli toute la caverne s'il les avait déployées. Et lorsqu'il tourna vers eux son horrible tête, il poussa un rugissement à faire trembler la roche, ouvrit la gueule et cracha un jet de feu, les obligeant à rebrousser chemin à toutes jambes.
« Il est partiellement aveugle, »
halta Gripsek,
« mais ça ne le rend que plus féroce. Nous avons cependant un moyen de le contrôler. Il sait ce qu'il attend quand résonnent les tantamars. Donnez-les-moi les tantamars. »
Ron tendit le sac à Gripsek et le gobelin en sortit plusieurs petits instruments de métal qui, lorsqu'il les remua, produisirent un vacarme retentissant, tels des marteaux frappant des enclumes miniatures. Gripsek en distribua un à chacun, et Bogrod prit docilement le sien.
« Vous savez quoi faire, hein ?»
dit Gripsek à Harry, Ron et Hermione.
« Il s'attend à ressentir une douleur quand il entend ce bruit. Il va reculer et Bogrod devra appuyer la paume de sa main contre la porte de la chambre forte. »
Ils tournèrent à nouveau l'angle du mur en secouant les tintamarres. Le bruit résonna sur les parois rocheuses, considérablement amplifiées, au point que Harry eut l'impression de sentir sa tête vibrer de l'intérieur. Le dragon laissa échapper un nouveau rugissement rauque, puis battit en retraite. Harry le voyait trembler, et lorsqu'ils s'approchèrent, il remarqua en travers de son museau les cicatrices des coups cruels qui lui avaient été infligés. Il devina qu'on lui avait appris à craindre les épées brûlantes à chaque fois qu'il entendait le son des tintamarres.
« Obligez-le à appuyer sa main contre la porte !»
lança Gripsek à Harry d'un ton pressant. Harry tourna à nouveau sa baguette vers Bogrod. Le vieux gobelin obéit, plaquant sa paume contre le panneau de bois, et la porte de la chambre forte fondit littéralement pour révéler une sorte de grotte remplie du sol au plafond, de pièces et de coupes d'or, d'armures en argent, de peaux d'étranges créatures, certaines dotées de piquants, d'autres d'ailes devenues flasques, de potions conservées dans des flacons ouvragés et d'une tête de mort encore coiffée d'une couronne. « Il faut chercher, vite !» dit Harry. Tous se précipitèrent à l'intérieur. Il avait décrit à Ron et à Hermione la coupe de Poufsouffle. Mais si c'était leur crux inconnu qui se trouvait ici, il ne savait pas à quoi il pouvait bien ressembler. À peine eut-il le temps de jeter un regard circulaire qu'un bruit sourd retentit derrière eux. La porte était réapparue, les enfermant dans la chambre forte où ils furent plongés dans une totale obscurité.
« Ça n'est pas grave !» « Bogrod pourra nous libérer !»
assura Gripsek en entendant Ron pousser un cri de surprise.
« Vous pouvez allumer vos baguettes, n'est-ce pas ? Dépêchez-vous, dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. »
« Lumos !» Harry dirigea sa baguette tout autour de la chambre forte. Son rayon lumineux tomba sur des joyaux étincelants et il vit la fausse épée de Gryffondor posée sur une haute étagère parmi un enchevêtrement de chaînes. Ron et Hermione avaient également allumé leurs baguettes et examinaient les objets entassés autour d'eux.
« Harry, est-ce que ce ne serait pas...
Ah !»
Hermione laissa échapper un cri de douleur et Harry tourna sa baguette vers elle juste à temps pour voir une petite coupe à boire ornementée lui échapper des mains. Mais lorsqu'elle tomba, elle se fendit et se transforma en une pluie d'autres coupes. Une seconde plus tard, dans un grand fracas métallique, le sol fut jonché de coupes identiques qui roulaient en tous sens, l'objet d'origine devenant impossible à reconnaître.
« Elle m'a brûlé !»
gémit Hermione qui suçait ses doigts couverts de cloques.
« Ah, ils ont ajouté des maléfices des géminaux et de flagrance,
s'exclama Gripsek.
« Tout ce que vous touchez va vous brûler et se multiplier, mais les copies n'ont aucune valeur. Et si vous continuez à prendre ces trésors entre vos mains, vous finirez par mourir écrasé sous le poids de l'or qui n'aura cessé de se reproduire. »«
Ok, ne touchez à rien !» lança Harry affolé. Mais au même moment,
Ron poussa involontairement du pied l'une des coupes tombées par terre, et une vingtaine d'autres jaillirent aussitôt dans une explosion. Ron sautillant sur place, une partie de sa chaussure brûlée par le contact avec le métal incandescent.
« Tiens-toi tranquille, ne bouge pas !» dit Hermione, qui lui avait saisi le bras.
« Contentez-vous de regarder !» recommanda Harry. « Souvenez-vous, c'est une petite coupe en or, avec un blaireau gravé dessus, et deux anses. Sinon, essayez de repérer quelque part le symbole de serre d'aigle, un aigle. »
Ils pointèrent leurs baguettes dans tous les coins et recoins, tournant sur eux-mêmes avec la plus grande prudence. Il était impossible de ne pas effleurer quelque chose, et Harry fit tomber une cascade de faux galions qui rejoignirent les coupes.
À présent, ils avaient à peine la place de mettre leurs pieds, et l'or luisant flamboyait de chaleur, transformant la chambre forte en fournaise. La baguette de Harry éclaira des rangées d'étagères qui montaient jusqu'au plafond et sur lesquelles s'alignaient des boucliers et des casques fabriqués par des gobelins. Il leva de plus en plus haut le rayon lumineux et soudain, il aperçut un objet. Son cœur se serra, sa main se mit à trembler et il s'écria « Allez là-haut ! Là-haut !»
Ron et Hermione pointèrent à leur tour leurs baguettes et une petite coupe d'or étincela sous l'effet des trois rayons conjugués.
C'était la coupe qui avait appartenu à Helga Poufsouffle, puis était passée entre les mains de Hepzibah Smith, à qui Tom Jedusor l'avait volée.
Et comment on va s'y prendre pour monter là-haut sans toucher à rien ? Demanda Ron.
As-tu aux coupes ?
S'écria Hermione, qui avait oublié dans sa tentative désespérée ce que Gripsek lui avait dit au cours de leurs préparatifs.
« Inutile ! Inutile !»
gronda le gobelin.
« Alors qu'est-ce qu'on fait ? » répliqua Harry en le regardant d'un œil mauvais. « Si vous voulez l'épée, Gripsek, il faudra nous aider à... Attendez, est-ce que je peux toucher les objets avec l'épée ? Hermione, donne-la-moi !»
Hermione glissa la main dans sa robe et en sortit le sac en perles dans lequel elle fouilla, quelques instants avant de retirer l'épée resplendissante. Harry saisit sa poignée incrustée de rubis et posa la pointe de la lame contre une aiguillère d'argent qui ne se multiplia pas.
« Si j'arrive à passer la lame à travers une anse, mais comment faire pour monter là-haut ? »
L'étagère sur laquelle se trouvait la coupe était hors de leur portée, même pour Ron qui était le plus grand de tous. Des ondes de chaleur s'élevaient du trésor ensorcelé, et Harry sentit la sueur couler sur son visage et le long de son dos pendant qu'il essayait de trouver un moyen d'accéder à la coupe. Il entendit alors le dragon rugir devant la chambre forte et des bruits métalliques se rapprocher. Ils étaient bel et bien pris au piège. On ne pouvait s'échapper que par la porte, et une horde de gobelins semblait s'avancer vers eux. Lorsqu'il jeta un regard à Ron et à Hermione, Harry vit la terreur sur leurs visages.
« Hermione, » dit-il, alors que les bruits métalliques devenaient de plus en plus sonores. « Il faut que je monte là-haut. Nous devons nous en débarrasser. »
Elle pointa sa baguette sur lui et murmura.
« Lévi, Corpus !»
Hissé dans les airs par la cheville, Harry heurta une armure et des répliques en jaillirent aussitôt, tels des corps chauffés au rouge, remplissant la chambre forte déjà surchargée. Avec des cris de douleur, Ron, Hermione et les deux gobelins furent projetés sur d'autres objets qui se mirent à leur tour à se multiplier. À moitié ensevelis sous un flot de richesses incandescentes, ils se débattirent, poussèrent des hurlements, pendant que Harry passait l'épée à travers une anse de la coupe de Poufsouffle, l'accrochant à la lame.
« Impervius !» cria Hermione, qui tentait de protéger les gobelins, Ron et elle-même du métal brûlant.
Entendant un hurlement pire que les autres, Harry baissa les yeux. Ron et Hermione étaient enfoncés jusqu'à la taille dans les trésors qui se multipliaient, et ils luttaient pour essayer d'empêcher Bogrod d'être submergé par cette marée montante. Gripsek, lui, avait sombré, et seul le bout de ses longs doigts fins restait encore visible.
Harry saisit la main de Gripsek et le souleva. Le gobelin, la peau couverte de cloques, émergea peu à peu en hurlant.
« Libera Corpus !» s'écria Harry. Dans un grand vacarme, Gripsek et lui retombèrent sur la masse croissante d'objets précieux et l'épée sauta des mains de Harry.
« Attrapez-la » vociféra-t-il, combattant la douleur infligée par le métal brûlant, alors que Gripsek grimpait à nouveau sur ses épaules pour éviter l'amas grandissant des objets chauffés au rouge. « Où est l'épée ? La coupe y est accrochée !»
De l'autre côté de la porte, les bruits métalliques devenaient assourdissants. Il était trop tard.
« Là ! Allez là !»
Ce fut Gripsec qui la vit le premier, et ce fut lui qui plongea aussitôt. Harry comprit à cet instant que le gobelin n'avait jamais eu confiance en eux. Fermement accroché d'une main à une poignée de cheveux de Harry pour ne pas tomber dans la marée d'or embrasée, Gripsec saisit l'épée et la leva le plus haut possible en la maintenant hors de portée. La minuscule coupe d'or embrochée sur la lame par son anse fut projetée en l'air. Le gobelin, toujours à califourchon sur ses épaules, Harry se précipita et l'attrapa au vol. Malgré la brûlure qu'il ressentait dans sa chair, il ne la lâcha pas, même lorsque d'innombrables coupes de pouf-souffle jaillirent de son poing, retombant en pluie sur sa tête. Au même moment, la porte se rouvrit, et il glissa dans une chute incontrôlable sur l'avalanche d'or et d'argent enflammé qui les emporta, Ron, Hermione et lui, à l'extérieur de la chambre forte. À peine conscient de la douleur provoquée par les brûlures qui lui couvraient le corps et toujours portée par la vague des trésors inlassablement multipliés, Harry fourra la coupe dans sa poche et tendit la main pour récupérer l'épée. Mais Gripsec avait disparu. Dès qu'il l'avait pu, il s'était laissé tomber des épaules de Harry et avait couru se mettre à l'abri parmi les gobelins qui les entouraient de toutes parts. L'épée à la main, il criait
« Des voleurs ! C'est des voleurs ! Il y a des voleurs ! Allez, des voleurs ! Il y a des voleurs !»
Il se fondit dans la foule qui avançait. Les gobelins, armés chacun d'un poignard, l'accueillirent parmi eux sans lui poser de questions. Glissant sur le métal toujours aussi brûlant, Harry se débattit pour se remettre debout et comprit que le seul moyen de s'échapper était de se ruer en avant. « Stupéfix !» beugla-t-il. Ron et Hermione se joignirent à lui. Des jets de lumière rouge jaillirent des baguettes et plusieurs gobelins furent jetés à terre, mais les autres continuèrent d'avancer et Harry vit des gardes sorciers surgir à l'angle du couloir en courant vers eux. Le dragon, attaché, poussa un rugissement et des flammes volèrent au-dessus des gobelins. Les sorciers prirent la fuite, courbés en deux, rebroussant chemin le long du couloir. Une inspiration, ou plutôt une folie, traversa alors la tête de Harry. Sa baguette, pointée sur les lourds anneaux qui enchaînaient la bête au sol, il s'écria « Lâche la masque !» Les anneaux s'ouvrirent aussitôt avec des bangs sonores. « Par ici !» hurla Harry. Lançant toujours des sortilèges de stupéfaction sur les gobelins qui ne cessaient de se rapprocher, il se précipita vers le dragon aveugle.
« Harry ! Harry, mais qu'est-ce que tu fais ?» cria Hermione. « Dépêche-toi, monte, viens !»
Le dragon ne s'était pas aperçu qu'il était libre. Le pied de Harry trouva le creux de sa patte arrière et il grimpa sur son dos. Les écailles de la créature étaient dures comme de l'acier. Elle ne sembla même pas sentir sa présence. Il tendit le bras, Hermione se hissa à son tour, Ron monta derrière elle, et un instant plus tard, le dragon comprit enfin que ses chaînes ne le retenaient plus. Dans un nouveau rugissement, il se cabra. Harry serra les genoux, s'accrochant aussi fermement que possible à ses écailles au bord pointu, tandis que les ailes de la créature s'écartaient, renversant comme des quilles les gobelins hurlant de terreur. Le dragon s'éleva alors dans les airs. Harry, Ron et Hermione, à plat ventre sur son dos, frôlèrent le plafond lorsqu'il plongea vers l'entrée du passage, pendant que les gobelins, lancés à sa poursuite, lui jetaient des poignards qui rebondissaient sur ses flancs.
« On n'arrivera jamais à sortir d'ici! Il est trop grand !» hurla Hermione.
Mais le dragon ouvrit largement sa gueule et cracha à nouveau des flammes, calcinant le tunnel dont le sol et les parois craquèrent puis s'éboulèrent. Par sa seule force physique, la bête se fraya un chemin à coups de griffes. Harry avait fermé étroitement ses paupières pour se protéger de la chaleur et de la poussière. Assourdi par l'effondrement de la roche et les rugissements du dragon, il ne put que se cramponner à ses écailles, s'attendant à tout moment à être précipité à terre. Soudain, il entendit Hermione crier
« Des fautiots !»
Elle aidait le dragon à élargir le passage, découpant le plafond pendant qu'il s'efforçait de remonter vers une atmosphère moins confinée, loin des gobelins qui ne cessaient de hurler. Harry et Ron l'imitèrent, creusant les parois avec de nouveaux sortilèges de terrassement. Ils passèrent à côté du lac souterrain et l'énorme bête, grondante, parut sentir devant elle l'espace et la liberté. Derrière eux, la queue hérissée de la créature donnait des coups violents de tous les côtés, répandant dans son sillage de gros morceaux de roche et de gigantesques stalactites brisées. Le vacarme des gobelins semblait de plus en plus étouffé, alors que devant, le feu qui jaillissait de la gueule béante dégageait la voix. Enfin,
Par la force combinée de leur sortilège et de la puissance brutale du dragon, ils surgirent du couloir et se retrouvèrent dans le hall de marbre. Gobelins et sorciers poussèrent des hurlements et coururent se mettre à l'abri. Le dragon avait à présent la place de déployer ses ailes. Sa tête, cornue, tournée vers l'air frais qu'il sentait au dehors, il décolla. Harry, Ron et Hermione toujours cramponnés à son dos, puis força les portes de métal, ne laissant derrière lui que des panneaux tordus qui pendaient de leurs gonds. Il sortit en vacillant sur le chemin de traverse et s'élança alors vers le ciel.